Les 72 heures de la radio depuis le musée automobile des 24 heures du Mans. Une émission réalisée par France Bleu Men et animée par Bruno Vandestick pour toutes les radios de la Sarthe à l'occasion de la première édition de la fête de la radio.
Bonjour à toutes et tous, très heureux, très fier aussi de vous présenter ce programme inédit à l'occasion de la fête de la radio. Des acteurs, des témoins de la vie FM sartoise sont nos invités dans ces prochaines minutes. Célébrer la fête de la radio au cœur d'un musée dédié à l'automobile s'impose car véhicules et radios ont toujours fait et continuent de faire la route ensemble. Nous l'évoquerons avec Émilien Borderil de Suite FM, Benoît Saliot de Radio Vinci Autoroute, Éric Lucas, porte-parole des radios associatives au sein de la Fédération régionale des radios associatives Maine Anjou. Mais la mise en route, c'est avec le directeur du musée des 24 heures du Mans qu'elle va se faire. Nous retrouvons tout de suite Fabrice Bourigeau. Bonjour Fabrice Bourigeau.
Bonjour Bruno.
Merci de nous recevoir chez vous au musée des 24 heures du Mans. Oui, effectivement, plein de choses à se dire et plein d'émotions à partager parce que je suis sûr que le directeur de musée des 24 heures du Mans que vous êtes, vous écoutez la radio en voiture.
Oui, forcément, c'est même culturel. On ne peut pas commencer une journée, en particulier le matin, sans écouter sa radio depuis le domicile et bien évidemment dans le trajet qui nous mène en voiture jusque sur le lieu de travail, en l'occurrence le musée.
Fabrice Bourigeau, évidemment, le musée des 24 heures du Mans nous permet de retrouver des voitures qui nous ont fait rêver parce que ce sont des bolides, autrement dit, des voitures qui ont forgé ce mythe autour des 24 heures du Mans. Mais on peut aussi retrouver des voitures de grand-papa, de grand-maman aussi. Les premières traces d'autoradio, on les retrouve à partir de quand? Il n'y a pas une Cadillac des années 50 qui en aurait?
Alors ici au musée, on a quelques voitures équipées avec des autoradios, dont une magnifique Cadillac Eldorado. Donc c'est la grosse américaine qui est faite pour affronter la route 66 par exemple. Ouais. Donc là on est au milieu des années 50 et là vous avez des voitures qui sont effectivement équipées d'un poste de radio. Mais la radio en fait, elle remonte à beaucoup plus vieux que ça finalement, au cours des années 20. Aux États-Unis, il y a eu un vrai décalage entre l'équipement des voitures aux États-Unis, années 20, puis avec des systèmes radio à lampe, hein, vous imaginez, donc des appareils très gros. Et puis ça s'est généralisé dans les années 30, ça commençait à arriver dans les années 30 aussi en Europe. Et puis on a commencé à les voir proposés par l'ensemble des constructeurs automobiles, je dirais, dans leur catalogue, comme étant une option d'ailleurs aux véhicules qu'on pouvait leur proposer. Mais les gens pouvaient aussi tout à fait... ce qui est intéressant avec l'autoradio dans son âge d'or, c'est que c'était aussi un objet qu'on pouvait choisir un petit peu et aller acheter pour trouver la qualité de son qu'on avait envie d'avoir, son équipement aussi ensuite avec les générations à cassette, et puis vraiment se dire je mets du son, je mets un bon appareil à l'intérieur de ma voiture.
Fabrice Bourigeau, est-ce que les équipements de radio ont été aussi très tôt utilisés dans les 24 heures du Mans? Là, je ne fais pas allusion à une radio qui permet d'écouter un programme de la musique, mais plutôt de se parler entre stand et pilote.
Oui, mais vous savez, de toute façon, sans être un ingénieur, que je ne suis pas, tout ça répond à des mêmes principes de transmission, d'émission, de réception. Oui. Et effectivement, aux 24 heures du Mans, la première apparition d'une liaison radio entre un véhicule de course et le stand, eh bien, elle est aussi américaine. C'est avec Briggs Cunningham, avec cette voiture qu'on appelait le monstre en fait, qui est une voiture qui est carrossée comme les prototypes actuels, mais on est en 1950. C'est en fait une Cadillac là aussi. À la base, c'est un châssis Cadillac, et à l'intérieur, ils avaient équipé la voiture d'un système radio assez important avec un microfil, mais qui permettait au pilote, en l'occurrence Briggs Cunningham, eh bien, de pouvoir dialoguer avec son stand. Alors, il ne reste pas de traces sonores
d'archives
du dialogue, mais on peut supposer quand même que c'était une véritable avancée technologique, non seulement pour les 24 heures du Mans, parce que Bruno, vous connaissez bien le circuit, 13 km 6, on va dire. Oui. Donc le temps autour est très long. On sait que au mois de juin, il y a des problématiques d'orage, etc. Donc finalement, avoir un moyen de prévenir le pilote à quelque endroit qu'il se trouve, je dirais, sur le circuit, c'était quelque chose d'assez essentiel.
Fabrice Bourigeau, chaque année, son anniversaire, 100 ans de la radio, 40 ans de la bande FM aussi en France, 60 ans du musée de l'automobile, musée des 24 heures du Mans.
Exactement,
aujourd'hui.
Exactement. 2021, 1961, création du premier musée de l'automobile, parce que, vous le savez, la CO s'est intéressée très rapidement au patrimoine automobile, et pour fêter le le cinquantenaire du club ambitionnait un rassemblement qui a été en fait décalé pour les raisons de l'accident de 55. Mmh. Et c'est donc en 1957 qu'on a célébré le cinquantenaire du club. Et là, l'idée, c'était non seulement de mettre en avant l'histoire des 24 heures depuis 1923, mais aussi l'histoire de l'automobile qui est née quand même au Mans en 1873, qu'on considère d'ailleurs dans le monde entier comme étant la première automobile de l'histoire.
L'obéissante.
C'est quand même l'obéissante, voilà, de la famille Bollé.
Qui n'avait pas de radio à l'époque, pardon.
Qui n'avait pas de radio, c'est clair. Ça aurait été un espèce de parlophone avec un gros haut-parleur, mais peu importe. Mais il y a eu une vraie prise de conscience à l'occasion de ces célébrations des 24 heures 57. Et il a fallu 4 ans, en fait, pour que la CO, son président, Monsieur Lelièvre à l'époque, mais aussi tous les édiles du Mans, président du département, le maire du Mans et le préfet de la Sarthe de l'époque, ambitionnent la création d'un musée qui sera inauguré en 1961 et qui va assez immédiatement accueillir des collections très intéressantes et, comme on l'a dit tout à l'heure, à la fois du tourisme et à la fois du sport.
C'était donc il y a 60 ans et le musée actuel, lui, a été inauguré il y a 30 ans, 1991. Comme quoi, les années une, quelque part, nous marque. Merci beaucoup Fabrice Bourigaud, mais vous restez avec nous, on se retrouve dans un petit instant, on va parler de la radio Outil Média, qui a justement aussi relayé les exploits des pilotes des 24 heures du Mans au fil des ans. De la musique aussi, que vous écoutez peut-être en voiture. Soprano, c'est tout de suite, c'est une nouveauté, voici Plus près des étoiles.
Un peu plus près des étoiles, là où les rêves n'ont pas de frontières. Pour oublier la pesanteur sur terre. Un peu plus près des étoiles, pour leur emprunter un peu de lumière. Revenir sur terre, la tête un espoir.
Un peu plus près des étoiles, là où les rêves n'ont pas de frontières.
les radios de la Sarthe se mobilisent pour la fête de la radio. Découvrez le musée automobile des 24 heures du Mans avec Bruno Vandestick. Une émission réalisée par France Bleu Maine à l'occasion des 72 heures de la radio.
Avec Fabrice Bourigeau, le directeur du musée des 24 heures du Mans. Fabrice Bourigeau, profitons de cet anniversaire de la radio, des 72 heures de la radio ici aussi sur ce territoire sartois, pour revenir sur l'outil média radio au profit des 24 heures du Mans. Parce que finalement, le grand public a appris à connaître les 24 heures du Mans avec quoi ? La presse papier, évidemment, les premières photos, mais aussi la radio.
Forcément, beaucoup la radio et je dirais que en particulier lorsque les 24 heures sont nées en 23, il y a eu l'interruption due à la Seconde Guerre mondiale, mais lorsque la course reprend en 49 et toute cet âge d'or, je dirais des années 50 en particulier, oui. Eh bien là, la radio est le média, je dirais le média phare et le média dynamique qui permet d'avoir en temps réel toutes les informations sur la course. Et d'ailleurs, vous croisez très facilement des générations de fans des 24 heures du Mans qui vous expliquent qu'enfant, ils écoutaient dans leur chambre, sur leur petit transistor, sur le poste de radio familial, la course qui se déroulait la nuit, parfois à l'insu des parents ou de la famille, parce que le principe, c'est de ne pas perdre une miette de ce qui se passe sur la piste. Donc, la radio a été, un média important et influent.
Nous aurons une pensée ici pour les victimes de ce grand drame de 1955. Alors, ironie du sort, quelque part, c'est la première année d'un signal de télévision, mais c'est aussi avec la radio que beaucoup de gens en France vont apprendre qu'il s'est passé quelque chose au Mans.
Oui, forcément, parce que épreuve médiatique, donc tous les grands médias, et en particulier les grands médias nationaux français, sont présents. Donc on parle de la presse écrite, et de la presse radio. Et effectivement, quand l'accident se déroule, eh bien, il va passer au premier plan des interventions, je dirais, des différents médias. Et il va probablement aussi jouer un rôle à la fois d'information, pour prendre en mesure l'ampleur de la catastrophe et peut-être aussi contribuer quelque part à ce que la catastrophe ne soit pas plus grande que ce qu'elle n'a été dans son horreur et sa réalité.
Fabrice Bourigeau, il y a 40 ans, donc le phénomène d'occupation de la bande FM devenait légalisé.
Et oui.
Alors, on a bien regardé dans les archives, c'est à partir de 1983 qu'il y a une bonne idée au sein de la CO qui est d'accroître ce que j'appellerais le confort d'écoute de ce qui se passe sur la piste à l'occasion des 24 heures du Mans en diffusant, en retransmettant sur la bande FM les commentaires du speaker.
Exactement. Ouais. Je pense que l'on doit cela à un homme qui s'appelait Benoît Froger, qui n'est plus de ce monde, mais qui s'occupait du commerce, du marketing au niveau de l'organisation des 24 heures du Mans. Et je pense que cette radio FM, cette capacité à pouvoir diffuser de l'information fabriquée sur le circuit, ça a été un enrichissement incroyable pour le suivi de la course pour le public. Parce que c'est vrai, on pourrait se dire, mais courir pendant 24 heures, c'est chiant, c'est long, c'est compliqué. Et là, en fait, on s'est retrouvé avec un média très facile à utiliser, mobile, qui nécessite pas, je dirais, d'organisation très complexe, à la fois pour l'émission et encore une fois pour la réception, pour le public, et bien de recevoir des informations régulières, permanentes, sur la course et sur l'évolution de la course. Hein. La première heure, la deuxième heure, les classements à la demi de chaque heure, Bruno, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Oui. Et en fait, ça a été un véritable outil d'accompagnement finalement très moderne, même assez interactif. Hein.
Et tout le monde traitait en fait avec une même oreille d'égalité, si je puis dire, pas de pied d'égalité, mais d'oreille d'égalité, parce que quand on regarde bien certaines photos de public, on grossit l'image, le nombre de personnes qui ont des oreillettes bien avant l'arrivée des smartphones, mais qui écoutent Radio 24 heures, c'est le nom effectivement de cette radio de mise en onde des commentaires du speaker, est très très important. On écoute aussi les interviews faites avec le micro HF de pilote, de team manager dans les stands, c'est génial.
Exactement, on a un décryptage en fait, on a un véritable décryptage de la course. On a les yeux pour regarder les voitures, les bolides passer. Et là, enfin, on a quelque chose qui nous explique pourquoi telle voiture est rentrée au stand ou quel pilote est à l'intérieur. Est-ce qu'il y a une évolution de la stratégie de course? Qu'est-ce qu'on est en train de faire dans le garage? On mécanique, mais qu'est-ce qui se passe sur la voiture qui est notre voiture favorite? En fait, on a une véritable clé de lecture de la course avec l'arrivée de cette radio 24 heures.
Ce sera un peu la question fil rouge que je poserai à chacun des intervenants, Fabrice Bourigeau, mais comment est-ce que vous voyez l'avenir de la radio? La société française reste, je dirais, attaché à sa radio.
Ouais, moi je vais peut-être vous dire quelque chose d'assez surprenant, mais Moi, j'aime bien les choses qui ne se révèlent pas totalement. J'ai ce côté un peu poète, un peu rêveur. Et ce que j'apprécie dans la radio, c'est justement qu'on ne voit pas. Et qu'on est obligé de faire travailler son imaginaire, qu'on est obligé de se représenter, je dirais, parfois les scènes ou les éléments. Alors peut-être qu'il y a des gens qui n'aiment pas écouter un match de foot à la radio. Mmh. Moi, je trouve ça extraordinaire parce que ça éveille véritablement les sens. Et voilà. Voilà en quoi je pense que la radio a de l'avenir, c'est que on peut la toucher à n'importe quel endroit et surtout elle travaille notre imaginaire.
Fabrice Borrigo, merci beaucoup. Bon 60e anniversaire au musée des 24 heures du Mans. À très bientôt, les 24 heures du Mans, c'est en août cette année. Merci encore Fabrice Borrigo.
Merci à vous.
Dans un instant, Radio Locale et Info Service Routière avec Émilien Bordery de Suite FM.
Les 72 heures de la radio. Ensemble, fêtons la radio en Sarthe.
La fête de la radio à la suite dans les prochains instants. L'instant d'une pause gourmande justement avec trois cafés gourmands. Voici, on t'emmène.
On a tous des hauts, on a tous des bas.
On a tous le cœur chaud quand on se prend dans les bras.
On s'est tous sentis seuls au moins une fois.
Quand on n'aime pas sa gueule, quand il n'y a rien qui va.
Dis-toi que c'est la même rengaine, que t'es pas tout seul avec ta peine.
Et qu'on t'emmène là-bas, oublier tout ça, les coups durs, les chagrins, ça nous fait un point commun. On t'emmène chez nous pour oublier tout, s'ils sont durs les réveils, c'est qu'on est un peu pareil. Allez, chante un peu, ça va déjà mieux. On t'emmène à l'abri, retrouver de l'énergie. Allez, viens chez nous pour oublier tout. Allez, viens chez nous, on t'emmène, on t'emmène, on t'emmène. On t'emmène.
On est tous en colère quand l'avenir nous ment.
On a tous des galères qu'on vit injustement.
L'air de rien, mais on aime passionnément.
Dis-toi que c'est la même histoire, que t'es pas seul à broyer du noir.
Et qu'on t'emmène là-bas, oublier tout ça, les coups durs, les chagrins, ça nous fait un point commun. On t'emmène chez nous pour oublier tout, s'ils sont durs les réveils, c'est qu'on est un peu pareil. Allez, chante un peu, ça va déjà mieux. On t'emmène.
Seul avec ta colère, tends-moi la main, prends la mienne.
La vie, ça tient à rien. Et qu'on t'emmène là-bas, oublier tout ça, les coups durs, les chagrins, ça nous fait un point commun. On t'emmène chez nous pour oublier tout, s'ils sont durs, les réveils, c'est qu'on est un peu pareil.
Les 72 heures de la radio au musée automobile des 24 heures du Mans. Une émission réalisée par France Bleu Maine et animée par Bruno Vandestick. Ensemble, fêtons la radio en Sarthe.
Échanger avec des acteurs, des témoins de la vie FM sartoise, c'est vrai que c'est essentiel. Bonjour Émilien Bordery.
Bonjour Bruno.
Ravi de vous retrouver.
Également.
Rédacteur en chef de Suite FM.
C'est bien cela, oui. Bon.
L'info circulation, l'inforoute, c'est un élément important, la grille des programmes, et on peut même dire quelque part que c'était un fer de lance, un cheval de bataille dans la progression et le développement de Suite FM.
Complètement. Alors chez nous, on appelle ça l'infotrafic.
D'accord.
Parce que, bon là, on va certainement essentiellement parler de la route, mais ça se veut, c'est un petit programme d'info pratique qui se veut plus global. On peut aussi parler de perturbations sur les voies ferrées, l'info trafic ferroviaire du coup.
Oui. Alors ce qui est important quand même, c'est de bien préciser que la radio, puisque c'est d'elle dont il est question, c'est un outil qui permet ici à un conducteur, une conductrice lambda de dire « Bonjour messieurs, dames, je suis dans tel endroit, il se passe ça, attention accident, attention travaux, attention surveillance vitesse ».
Oui, exactement. Ouais, ouais. C'est d'ailleurs souvent ce que retiennent nos auditeurs quand on parle de Suite FM. Parmi les retours, c'est largement ça. Ah oui, c'est la radio qui annonce les radars. Ouais. En réalité, on en annonce assez peu, mais c'est marquant. C'est marquant, et il faut bien savoir que ça se fait de manière intelligente. Il ne s'agit pas évidemment de permettre à des dangers publics de bien mieux sûr. S'en sortir. Pas du tout. D'ailleurs, policiers, gendarmes fonctionnent, travaillent avec nous et régulièrement nous demandent de ne pas relayer sur l'antenne une présence d'un de leurs membres à tel ou tel endroit parce que, certes, il y a un peu de contrôle de vitesse, mais il y a aussi tel ou tel individu qui est recherché et qui pourrait très bien être pincé à cette occasion-là. Donc voilà, il ne s'agit évidemment pas de se rendre complice de la fuite de quelqu'un qui est recherché.
Bon, Emilien Borderie, on ne va pas tourner autour du pot, une question de franchise avec vous. Est-ce qu'au fil du temps, ça marche toujours aussi bien, les appels pour dire attention ici et là, il y a danger? Est-ce que ça s'érode un petit peu? Ben parce qu'on a nos téléphones, les fameuses applications qui avertissent de danger.
Ça fonctionne encore très bien. Ce serait mentir de dire que ça marche aussi bien qu'il y a 5 ou 6 ans, parce que c'est vrai qu'on voit qu'il y a des évolutions, les techniques changent. Il y a d'autres supports que la radio pour naviguer en voiture. Néanmoins, chez nous, alors nous on fait du local, donc on connaît les rues, on connaît les bourgs, on connaît les centres-villes qui sont évoqués à l'antenne, et on les connaît sincèrement mieux que Waze, pour ne pas le citer.
Voilà.
Et puis surtout, ça se veut donc participatif. Ce sont les auditeurs de Suite FM qui nous appellent au standard et qui nous disent qu'à tel endroit ça coince ou qu'à tel endroit il y a eu un pépin, que ça a l'air grave, que ça bouchonne déjà et que ce serait peut-être pas mal de passer ailleurs pour ne pas venir compliquer le travail des services d'urgence. Le côté participatif fonctionne encore très bien.
Emilien Borderie, j'aimerais que vous nous parliez, vous nous donniez quelque part votre ressenti sur la place de la radio aujourd'hui. Vous êtes aussi le fruit, vous savez, de l'arrivée même des grandes radios sur la bande FM, parce que vous avez commencé à Paris avant d'arriver ici en région et ici au Mans. Heureusement que quelque part, il y a la bande FM qui nous a accompagnés ces 4 dernières décennies.
Ah oui, complètement. Oui. Ben moi, c'est un peu l'histoire de c'est ma compagne depuis toujours la radio, la bande FM. Tout gamin, j'essayais de capter des radios difficiles à capter dans mon coin de campagne, et ça m'émeuvait sincèrement lorsque j'arrivais à capter un signal en FM. Je parle pas de radio amateur, mais rien qu'en FM, j'avais déjà des sensations incroyables. Et oui. Chemin faisant, j'ai eu envie de faire comme ceux et celles que j'entendais. Que j'entendais à la radio. J'écoutais des flash infos, je me disais oh, ça a de la gueule, ça, j'aimerais bien moi aussi faire des flash infos à la radio. Et j'y suis arrivé.
Ouais. Indépendamment de l'info trafic, est-ce qu'on peut dire que la radio et la voiture et la radio sont faits vraiment pour être ensemble, que quelque part la voiture est aujourd'hui la meilleure amie de la radio?
Oui. Alors, on n'écoute pas la radio qu'en voiture.
Bien sûr.
On pourrait penser que c'est le dernier, l'unique endroit où on écoute la radio. Il y a encore une écoute sur poste fixe à la maison, dans la cuisine, dans la salle de bain. Ça reste assez important. Mais c'est vrai que la voiture, l'habitacle de la voiture est un endroit privilégié pour écouter la radio parce que c'est pratique. On a besoin, a priori, que d'une paire d'oreilles pour écouter la radio correctement, ce qui permet donc de conduire sûrement, ce qui permet de s'informer, ce qui permet de se marrer, ce qui permet d'apprendre des choses. Donc oui, la radio est intimement imbriquée avec l'automobile, c'est certain. À plus forte raison, la radio locale d'ailleurs.
Il faudra un jour aussi reparler évidemment de la carrière artistique que certains chanteurs, chanteuses, des groupes ont eu grâce à la radio. On le fera avec Wilfried Tocqueville que vous saluerez pour nous. Merci beaucoup Emilien Borderie, rédac chef de Suite FM. Bonne route et à très bientôt.
Merci Bruno.
Dans un instant avec Benoît Salut, nous allons parler d'une radio que vous connaissez aussi toutes et tous. Et pour cause, Radio Vinci Autoroute. Elle était l'une des reines des années 80, les premières années des radios locales. Tina Turner, c'est tout de suite. Voici The Best. You're
La fête de la radio s'invite au musée automobile des 24 heures du Mans. Une émission présentée par Bruno Vandestick avec le soutien de France Bleu Maine à l'occasion des 72 heures de la radio en Sarthe.
Vous écoutez la radio en voiture, vous faites bien, vous écoutez la radio sur autoroute, vous faites bien aussi. Bonjour Benoît Saliouf.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir, ravi de faire connaissance avec vous. Vous représentez Radio Vinci Autoroute, rédacteur en chef.
C'est ça, rédacteur en chef de Radio Vinci Autoroute sur la fréquence 107.7.
En France, là aujourd'hui en 2021, Radio Vinci Autoroute finalement, c'est quoi? C'est quelle étendue?
Je pense qu'en 2021, comme depuis la création des radios sur la fréquence 107.7, on reste un petit peu des ovnis du PAF, voilà. Une radio à part entière, mais qui a peu de points communs avec les autres, avec d'abord une spécificité, c'est cette fréquence unique,
oui.
107.7, sur l'ensemble des autoroutes concédées en France. Alors, concédées, ça veut dire que ce sont les autoroutes à péage, dont l'entretien est confié à des sociétés privées. À partir du moment où en France on roule sur une autoroute de ce type, il y a cette fréquence 107.7, et selon les régions de France, ce sont des radios différentes.
D'accord.
Notre point commun, c'est de faire de l'infotrafic, et d'être diffusé sur cette fréquence 107.7 sur l'ensemble d'un voyage. On peut faire Paris-Le Mans, Paris-Nantes, oui. Paris-Rennes ou Paris-Bordeaux en restant sur la même fréquence. Donc ça, c'est notre vraie force, notre vraie et c'est notre identité en fait, notre signature.
C'est la vraie radio service. Là, on peut le dire puisqu'on parle effectivement de la fête de la radio et quelque part de ce que la radio peut nous apporter au quotidien. Là, on a une application très très concrète.
Ouais, c'est intéressant ce que vous dites, parce que on doit être bien plus qu'une radio d'infotrafic.
Absolument.
Il y a aujourd'hui une multitude d'outils en voiture embarqués pour savoir où il y a des bouchons. Mm-hmm. Donc on écoute Radio Vinci Autoroute pour savoir certes s'il y a des bouchons, mais pas uniquement. Faut rappeler en fait pourquoi on a été créé.
Oui,
on a été créé potentiellement pour sauver des vies. Notre objectif en fait, c'est que dès qu'on a conscience d'un danger potentiel sur l'autoroute, je parle pas d'un bouchon. Un bouchon, c'est en réalité rarement dangereux. Ce qui est dangereux, c'est un rouleau de moquette sur les voies de circulation, un poids lourd en travers des voies, ou un accident, vous voyez, avec une voiture au milieu des voies de circulation quand on roule à 130, ou même, je le dis des fois, un paquet de chips. Un paquet de chips qu'on jette par la fenêtre. En fait, quand on se retrouve avec un peu de vent et un paquet de chips qu'on peut retrouver sur son pare-brise, c'est extrêmement dangereux, ça fait peur. Donc, notre mission, c'est de signaler tous ces dangers potentiels le plus rapidement possible à l'antenne. Et c'est des choses très sérieuses. En fait, ça, c'est suivi par le ministère des Transports. Entre le moment où la société d'autoroute a connaissance d'un danger potentiel sur l'autoroute et le moment où c'est diffusé sur 107.7, doit s'écouler maximum 4 minutes.
D'accord.
Ça peut paraître beaucoup, mais en fait, c'est très peu. Ouais. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on met moins de temps pour l'annoncer.
Et justement, je pense à la voix de la personne, priorité à l'infotrafic. Ouais. Même si c'est en plein milieu d'un disque, c'est pas grave, priorité à l'infotrafic. Benoît Saliouf, je vais pas faire porte-parole de Radio Vinci Autoroute à votre place, mais j'ai envie de dire, il faut quand même vous féliciter pour plein de choses. La qualité de la playlist, la pertinence des chroniques, on entend même des acteurs, des chanteurs, c'est sympa tout cela. Bien sûr, des hommes de loi aussi.
Mais oui, parce qu'en effet, on est une radio d'infotrafic, donc pour signaler des dangers potentiels, très bien, mais en fait, on est aussi la radio du voyage. Alors la radio du voyage au quotidien, il y a beaucoup de gens qui prennent l'autoroute quotidiennement pour aller bosser, qui font 30, 40, 50 bornes et, qui vont nous écouter, et ils ont besoin d'autre chose que d'infotrafic. Alors merci pour le programme musical. Les chroniques, on parle un peu de tout en fait sur notre antenne, et en effet avec toujours, enfin on essaie de mettre un maximum cet angle route voyage pour accompagner les gens. On est des copilotes. Voilà, moi je dis souvent aux animateurs, aux journalistes qui travaillent sur Radio Vinci Autoroute, il faut vous imaginer sur le siège passager, et donner de l'info, faites aussi un peu rêver le conducteur.
Benoît Saliouf, je me dis que ça se trouve il y a des gens qui écoutent Radio Vinci Autoroute chez eux quand ils ne sont pas sur l'autoroute, parce qu'ils apprécient justement ce que vous faites.
Oui, alors il y en a beaucoup, et notamment parce qu'il y a très peu de pubs. Alors c'est un peu un point commun entre les radios du service public et le 107.7. Il y a beaucoup de gens qui écoutent la radio chez eux. Alors historiquement, vous voyez, on était diffusés dans beaucoup de salles d'attente.
Ah tiens.
Et oui, parce qu'en fait, chez les médecins, chez les dentistes et ainsi de suite, c'est plutôt sympa d'avoir une radio où il y a peu de publicité. Et puis plus sérieusement, maintenant depuis quelques années, et notamment grâce au développement de notre application, notre site internet, il y a beaucoup de gens qui, avant de prendre la route, écoutent le dernier point trafic, région par région. On clique sur la bonne région à travers la France et on entend le dernier point trafic. Ainsi, on sait s'il y a des bouchons avant même de prendre la route.
Benoît, salut en quelques mots. Je suis en Sarthe, en Bretagne, Pays de la Loire. La voix de la personne de Radio Vinci Autoroute, elle est où ?
Elle est à Rueil-Malmaison, en région parisienne, d'accord, donc à côté de Nanterre. Depuis ce studio, on couvre en effet toutes les autoroutes entre Paris, Rennes, Le Mans et jusqu'à Bordeaux. Et puis Radio Vinci Autoroute a d'autres studios dans le sud de la France. Toutes les radios du 107.7 qui sont situées dans une ligne, voyez, entre Bordeaux, on va dire, et les Alpes, c'est Radio Vinci Autoroute.
À partir de ce jour, j'écouterai Radio Vinci Autoroute avec une autre oreille dans mes déplacements, grâce à vous. Merci beaucoup. Bernard Salio, bonne route et à très bientôt. Dans les prochains instants, Kenji Girac avec évidemment, et ensuite on va parler effectivement de l'héritage de ces radios locales avec Eric Lucas.
C'est pardonner à tous les humains de pardonner les mauvais chemins, même de rien. C'est pardonner à tous ceux qui s'aiment de ranger les erreurs qui traînent, même à peine. Moi j'ai pu me tromper de route, on a pu se tromper sans doute. Tout ça c'est vieux, c'était pas nos deux. Évidemment, on pleure un peu pour mieux s'aimer. Être à deux, c'est pardonner. Évidemment, fermer les yeux sur le passé. Être à deux, c'est pardonner. De tenir longtemps, mais tu m'as donné du sourire souvent, infiniment. C'est pas donné de braver les mers, je me ferai ton phare, ta lumière, si tu te perds. Moi j'ai pu me tromper parfois, on a pu se tromper cent fois. Ça c'est vieux, c'était pas nos deux. Évidemment, on pleure un peu pour mieux s'aimer. Être à deux, c'est pardonner. Évidemment, fermer les yeux sur le passé. Être à deux, c'est pardonner.
Les 72 heures de la radio au musée automobile des 24 heures du Mans. Une émission réalisée par France Bleu Maine et animée par Bruno Vandestick. Ensemble, fêtons la radio en Sarthe.
Merci de faire une place à la radio dans votre quotidien et peut-être pour certains d'entre vous depuis les années 80 et la fameuse légalisation de la bande FM. Bonjour Éric Lucas.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver, de faire aussi connaissance avec vous parce que vous êtes un homme multi-casquette. En ouverture de ce programme, je disais porte-parole des radios associatives, c'est ça ?
Oui, c'est ça, la Fédération Régionale des Radios Associatives Maine-Anjou qui regroupe l'ensemble des radios associatives qui se sont développées très rapidement dans les années 80 et aujourd'hui il en reste 8 sur le département de la Sarthe, ce qui en fait un département assez particulier.
Finalement
avec une répartition en plus géographique intéressante puisqu'il y a Le Mans mais il y en a aussi tout autour dans les vers Fresnay, vers Sillé, vers Château du Loir, vers Pont-Valin, La Flèche, ce qui permet une couverture on va dire en hyper localité tout à fait intéressante en complémentarité des autres radios qui existent sur le secteur.
Moi je prends l'initiative même sur France Le Maine de les citer parce qu'effectivement voilà, mes yeux tombent sur un très joli panneau qui est juste à côté de moi. Alors, Radio Alpa, Fréquence Sillé, Radio Alpes Mancel, Contact FM, Radio Prévert, Ornithorynque aussi, j'aurais oublié.
Ils
personne,
ont osé. Ouais. Ils ont osé, oui.
Ils ont osé.
Et puis c'est tout. Voilà, c'était leur slogan.
Ah, d'accord. Ouais. Et aujourd'hui, effectivement, ces radios ont toujours un auditoire au quotidien.
Oui, ces radios ont un auditoire au quotidien dans la mesure où ils ciblent très spécifiquement les gens qui vivent sur le territoire. Il faut intervenir vraiment les gens du territoire, de l'hyper-proximité, c'est-à-dire que on s'intéresse toujours d'abord à l'actualité, si je prends le cas de Sillé-le-Guillaume, par exemple. Sillé-le-Guillaume d'abord, puis après le secteur de Conly, Fresnay, Évron, puis après on élargit sur le département, mais on est toujours très concentré sur le lien qu'il y a entre les gens qui habitent sur place et les programmes qu'on va pouvoir développer.
Quitte à citer deux fois le nom de cette radio, Cartable FM. Évidemment, Cartable, tout le monde pense scolarité. Est-ce que quelque part, dans ces années 80, puis 90, ainsi de suite, les radios associatives, ça a été une sorte d'école de la vie ?
Le département de la Sarthe est une exception en France. C'est le seul département dans lequel il y a 4 radios qui sont encore vivantes et qui sont nées en milieu scolaire. Mmh. Au collège de Pont-Valin, au lycée de Sillé-le-Guillaume, au collège Berthelot au Mans et au lycée professionnel de Château du Loir.
D'accord.
Elles existent toujours, ces radios, mais elles ne sont pas des radios scolaires, elles sont des radios en milieu scolaire, mais qui font le même boulot que toutes les radios locales. C'est une spécificité sarthoise, oui.
Ouais, elles ont en fait, ces radios, un rôle hyper important, parce qu'on imagine quand même, vous imaginez donc, toutes et tous, des petits jeunes, adolescents, préados, qui arrivent, qui vont se mettre devant un micro. Bah, il n'empêche que le palpitant connaît une belle accélération, parce qu'il faut parler devant le micro et pas être ridicule devant les autres.
Et oui, et en plus, l'école ne préparait pas avant à l'oral. On parle maintenant beaucoup du grand oral.
C'est sûr.
Il était temps, parce que longtemps, on a complètement occulté tout ce qui était important à travers l'oral. Et là, on a installé des radios. On a amené des jeunes aussi à, non seulement à s'exprimer oralement, mais à comprendre qu'il faut écrire avant de passer à l'oral. Par exemple, en radio, les choses sont claires. Et on en a vu plein qui ont évolué, qui ont développé un paquet de compétences et qui sont devenus même des professionnels. Hein. Je pense à, par exemple, Vincent Cerruti qui a commencé avec Alpa. Ou je pense, par exemple, à Yael Gosse qui a commencé à 12 ans au collège de Pont-Valin et qui aujourd'hui est responsable de l'information politique à France Inter.
Il y a des vocations artistiques qui sont nées aussi grâce justement à ce courant des radios FM et même encore récemment.
Oui, globalement, il y a des gens qui sont partis vers différents secteurs liés à la communication, liés au domaine artistique. Mais nous, on a plutôt suivi ceux qui étaient partis vers le monde de la radio, évidemment.
Ouais. Comment est-ce qu'elles font aujourd'hui ces radios pour vivre ? Alors, nerf de la guerre, l'argent. Hein.
Alors, évidemment, il faut aller chercher les financements. Et les financements reposent plutôt sur des financements publics, État, région, département, commune. Et puis, toutes sortes d'actions qui peuvent être menées de ci, de là, liées à la formation, à l'éducation aux médias, à des opérations ponctuelles avec des acteurs locaux. Et la question, c'est comment maintenir à la fois des bénévoles, parce que ça reste quand même le fond même des radios associatives, et en même temps, des équipes de salariés, d'où les besoins de fonds. Et là, il faut bien sûr avoir une vraie politique d'entreprise. Mmh. On est des entreprises de l'économie sociale, hein, par entière.
En 20 secondes, Éric Lucas, France 2021, la population française est toujours attachée à sa radio.
Bah, hier, j'étais dans un collège à Loué. Une vingtaine d'élèves. Combien parmi vous écoutent la radio ? Un élève a levé la main. Voilà. Et les autres, en fait, ils étaient sur des fils de musique ou sur d'autres usages. Oui. Et après, quand on dit mais qui écoute la radio quand les parents écoutent la radio ? Ah bah oui, bien sûr. Donc c'est là qu'il y a effectivement peut-être une éducation à faire pour expliquer que la radio c'est aussi du programme, c'est pas que de la musique, absolument, c'est de l'information, c'est un élément indispensable dans la vie citoyenne et démocratique.
Et radio et voiture continuent de faire une bonne route ensemble. On va l'évoquer dans un petit instant avec vous, Eric Lucas. Avant cela, tiens, on a beaucoup aimé dans les années 80, justement, Tainted Love, avec le groupe Soft Cell.
La fête de la radio s'invite au musée automobile des 24 heures du Mans. Une émission présentée par Bruno Vandestick avec le soutien de France Bleu Maine à l'occasion des 72 heures de la radio en Sarthe.
C'est déjà le dernier plateau de cette émission spéciale Fête de la radio. C'est vrai, finalement, on peut revenir un instant, Eric Lucas, sur ces notions d'anniversaire. Nous sommes ici au musée des 24 heures du Mans, 60 ans de l'inauguration du premier musée. C'est aussi les 100 ans de la radio et donc, en même temps, les 40 ans de la bande FM.
Les 40 ans des radios libres, bien sûr. Et je peux vous dire, dans le cadre de l'opération cette fête de la radio, on a recontacté nous plein d'anciens, l'espèce d'enthousiasme, l'espèce de d'envie d'évoquer cette période, le sourire, la joie à en parler, ouais. L'impression d'avoir participé à un grand mouvement en fait.
Ouais. Il y a beaucoup d'événements aussi qui ont eu un écho particulier grâce au fait qu'ils ont été annoncés à la radio. Alors il y a les journées Georges Durand, entre autres, mais qui ont effectivement été parmi ces événements. Là, vous nous racontez ?
Alors là, on est sur l'automobile aussi, ouais. Effectivement, parce que du côté de Fresnay-sur-Sarthe, il y avait des gens comme Gérard Roudard, comme Francis Rossier, Pierre Rochaudet, Bernard Roussel, qui ont mis au point en 87 les journées Georges Durand. Georges Durand, natif de Fresnay-sur-Sarthe, encore une fois, on est sur du local, on rend honneur à à Georges Durand, le créateur aussi des 24 heures du Mans, le créateur de la CO, le créateur du syndicat d'initiative des Alpes-Mancelles.
Absolument. Un des premiers en France à le faire. Hein,
et donc, on rend hommage à Georges Durand et il décide de créer une journée où on va rassembler des véhicules anciens. Et ça marche du tonnerre de Dieu. Mmh. La première édition, il y a plus de 45 véhicules anciens. Mais attention, à l'époque, les véhicules anciens, c'était des véhicules des années 1900 à 1940.
Oui.
Hein, c'est pas les véhicules des années 80 comme on peut voir aujourd'hui. Et on réussit à créer un événement qui va lier la radio, oui, parce qu'on va suivre l'ensemble des déambulations de ces voitures sur les petits chemins des Alpes-Mancelles, et plus tard, depuis le départ au Mans même, pour remonter jusque sur les Alpes-Mancelles, et interroger les gens qui sont avec leur voiture, les copartenaires, les gens qui sont dans le public en train de regarder ces voitures, etc. Et donc, on a créé, en fait, avec Radio Alpes-Mancelles, à ce moment-là, donc c'était entre 80, chaque année, 87, 88, etc., et jusqu'au milieu des années 90, un gros rassemblement avec des véhicules magnifiques, et qui montraient le lien entre la radio, le territoire, et une culture qui était là, la culture de l'automobile.
En valorisant justement ce patrimoine local lié à l'automobile à travers la radio locale, vous avez aussi permis aux plus jeunes générations d'apprendre à connaître et ne pas oublier qui a été Victor Emery.
Alors Victor Emery, c'est un Sillien, donc là, en tant que responsable de fréquence Sillé, évidemment, on a mis en valeur Victor Emery, qui était né dans cette ville, qu'il a quitté avant l'âge de 10 ans pour venir vers Le Mans. Et c'est surtout quelqu'un qui a, rendez-vous compte, battu le record du kilomètre,
oh là là. Hein,
175 km/h quelque part entre Salon et Arles, en pleine ligne droite, sur une Darak. Hein. Plus tard, il sera compétiteur sur Benz. Et il y a encore, par exemple, au musée de Stuttgart, toute une partie consacrée aux véhicules Benz, bien sûr, à Stuttgart, et également à Victor Emery lui-même, ouais, qui reste un des grands noms. Alors, il n'avait pas un caractère facile, Victor Emery, hein, mais ça reste un des grands noms de la course de vitesse. On a, par exemple, encore aujourd'hui, à valoriser, nous, à l'antenne, ce patrimoine qui existe, c'est-à-dire le raccord avec les gens qui sont nés sur ces territoires. Ça, c'est le rôle des radios locales. Et quand on fait une émission, par exemple, avec des gens comme Jean-Yves Lasso, spécialiste de Victor Emery, en même temps le musée de Stuttgart, oui, en même temps la petite fille de Victor Emery, eh bien on met ça en lien avec ces cartes postales où on le voit prendre des virages en plein dansillé pendant des courses de côte, voilà, à cette époque-là.
Éric Lucas, avant de se dire au revoir, ok, on a évoqué des faits du passé, mais il faut bien se le dire, la bande FM, les radios de proximité territoriale ont un présent et surtout un avenir. Vous en avez la conviction ?
Partout aujourd'hui, le mot territoire ressort. Oui. C'est-à-dire qu'à travers la crise, tout le monde s'est rendu compte de l'importance d'être sur l'hyper-proximité. Qu'il fallait, ça se voit pour le commerce, ça se voit pour la culture, ça se voit également pour les radios. Il y a besoin d'hyper-proximité. En radio, il y a besoin de radio nationale, il y a besoin de radio régionale, il y a besoin de radio départementale, et il y a besoin de radio locale. Les gens ont besoin de ce service, et à nous tous, nous assurons en quelque sorte, en complémentarité, ce service d'utilité.
Il fallait que ce soit dit, vous savez quoi, Éric Lucas ? Vous l'avez bien dit. Donc un grand merci à vous. Merci aussi à toutes et tous pour cette attention que vous nous avez accordée. Merci au musée des 24 heures du Mans de nous avoir aussi accueillis. Merci à Émilien Bordery, à Benoît Salio, donc à Fabrice Borigo. Merci aussi à l'ensemble des équipes de France Bleu Maine qui nous ont permis, voilà, de célébrer une première fois cette fête de la radio. Éric,
merci à France Bleu Maine, voilà, pour cette animation.
Et on vous dit naturellement à très bientôt. Vous aimez les radios FM ? Retenez que les radios FM vous aiment aussi, et c'est normal parce que vous le leur rendez bien aussi au quotidien. Merci encore à toutes et tous. Portez-vous bien et longue vie aux radios.